Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Bonsoir à toutes et tous. Merci d'avoir bravé la pluie, le mauvais temps. Nous aurions espéré être un peu plus nombreux, mais ça va créer peut-être une ambiance chaleureuse. Quelques mots avant de vous présenter nos invités. Le Chemin de la République, c'est un programme qui a été lancé par le Conseil départemental en 2017 pour produire des actions et des événements pour la promotion des valeurs de la République, la lutte contre les discriminations, et également des questions de laïcité. Donc c'est des tables rondes, des expositions, des conférences un petit peu partout dans le département, pas forcément au pavillon République. Et on revient sur les sujets de l'histoire de notre pays, mais qui éclairent les situations d'aujourd'hui. Comme on a l'habitude de dire, on ne fait pas des leçons d'histoire, on essaye de tirer des leçons de l'histoire, et cette soirée s'inscrit complètement dans cette logique. Un mot également pour doublement, alors d'une part saluer la présence de Luis Mendez de Memodio. Cette soirée va faire l'objet d'un podcast, donc je vous engage à visiter le site de Memodio, MEM_AUDIO, voilà, qui reprend énormément des sujets des chemins de la République, et c'est très certainement le meilleur moyen, au-delà de toute explication, de comprendre ce qu'on fait, de découvrir une multitude de sujets. Et puis lui, ce soir, c'est un peu particulier, d'abord c'est des retrouvailles avec une partie des personnes que je vais présenter dans quelques instants, et tout simplement parce que l'histoire de l'ONIA, c'est un sujet très familier pour Memodio et pour Luis Mendez, puisque il a réalisé en 2006 un documentaire pour lequel il a obtenu le prix SCAM œuvre sonore de l'année. C'est un documentaire qui s'articule autour de la revue de poésie, donc on va dire quelques mots, NH3, et je pense que Serge ou Armand vont dans quelques instants vous dire un mot là-dessus, voilà, qui a été édité avec le soutien du CE de l'usine AZF. Donc il y a question de poésie bien sûr, mais également d'usine, de chimie, de travail, et naturellement de la mémoire et puis de l'explosion de l'usine. Donc, avant d'arriver dans le vif du sujet, ben, ce qui nous importe ce soir, c'est que là, il y a une double mémoire un peu antagoniste entre, je reprends le titre du livre de Bertrand Vessière, de l'usine nourricière à l'usine meurtrière, une catastrophe. À 10h17, Vincent Gibert l'a mentionné, qui rentre dans la mémoire des Toulousains, des Toulousaines. Et puis, une mémoire avant, et on n'avait pas envie qu'elle s'étienne, puisque beaucoup des gens qui sont ici travaillent pour porter cette mémoire. C'est celle d'une industrie qui arrive, qui s'implante dans Toulouse, et puis c'est celle des femmes et des hommes qui se sont impliqués, engagés, je crois qu'on va pouvoir en parler, tout au long de ce passé, 100 ans, entre la création de l'ONIA en 1924 et cette soirée. Michael Leopard, vous êtes docteur en histoire contemporaine, enseignant, chargé de cours en histoire à l'université Jean Jaurès. Vous êtes passionné pour l'histoire d'AZF puisque c'était votre sujet de thèse en tant qu'étudiant. Thèse qui est devenue un ouvrage que j'ai ici, Aux origines d'AZF, le problème de l'azote en France, 1919-1940, et dans lequel vous balayez toute la période que l'on va voir. Il y a beaucoup de choses très techniques, mais il y a également des parties de récits sur l'impact humain au sein de l'usine. Alors, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose à cette brève présentation.
Oui, merci. Dans cet ouvrage, j'aborde aussi tout le pan de cette histoire ouvrière. Donc c'est une histoire que j'ai essayé, que j'ai voulu la plus totale ou la plus globale possible, en associant justement les volets techniques ou économiques à l'aspect humain, en essayant de comprendre qui étaient ces personnes qui ont fait cette usine, en partant des hommes politiques pour en revenir finalement aux différents acteurs locaux, jusqu'à l'ouvrier finalement de base. Voilà.
À votre gauche, Armand Cassé. Alors, je vais commencer par remercier de vraiment avoir tenu à être là ce soir, puisque Armand a droit à un petit tabouret, puisqu'il a un genou cassé. Voilà, mais malgré ça, il a tenu à être là coûte que coûte. Donc, Armand, vous avez une formation de menuisier, un très long parcours. Vous avez intégré l'entreprise AEPC, ex-ONIA, futur AZF en 1974. Vous avez fait un parcours au sein de différentes filiales que je ne vais pas détailler là, parce que qu'il y en a tellement ces foisons, jusqu'à votre retraite. Vous êtes un syndicaliste, ça occupe une place très importante dans votre parcours. Vous êtes rentré à la CGT en 1972. Vous avez été délégué du personnel, je vais passer les années, membre du CHSCT, comité d'hygiène et sécurité, puis du comité d'entreprise. Vous avez été secrétaire du CHSCT pendant plusieurs années, secrétaire du comité d'entreprise pendant plus de 15 ans, et vous êtes toujours membre d'un syndicat en tant que retraité. Vous avez représenté les intérêts du comité d'entreprise aux trois procès d'AZF entre 2005 et 2017, et puis vous avez également réalisé un film documentaire sur l'ONIA, qui est accessible sur YouTube, on peut le dire, voilà, que je vous engage à voir. Vous allez y retrouver bien des choses qui vont être détaillées ce soir. Vous êtes membre de l'Institut régional d'histoire sociale de Midi-Pyrénées et de IHS31, donc qui sont des organes internes à votre organisation syndicale pour retracer l'histoire sociale. Serge Bagui, autre syndicaliste, vous êtes entré dans l'entreprise dans les années 70. Vous avez participé de plusieurs façons à l'amélioration des conditions de travail, notamment au travers de plusieurs conflits sociaux. Vous aurez sans doute l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Vous avez été secrétaire adjoint du comité d'établissement, membre du comité central d'entreprise, et avec un parcours que je ne vais pas détailler là, puisque sinon, dans 20 minutes, on est encore ici. Serge Bagui, tout comme Armand, est un monsieur très occupé et très engagé. On va dire quand même que vous avez créé en 1983, avec la CAF Poésie, une revue de littérature, celle que nous montrions il y a quelques instants, sur le site d'APC. Et donc, vous avez mêlé poésie et puis finalement l'histoire industrielle ou le ressenti. Bon, je ne vais pas en dire plus que ça, si ce n'est que vous avez été très impliqué en tant que rapporteur de l'enquête du CHSCT dans l'accident d'AZF et ses conséquences, qui font également partie de ces 100 ans d'histoire que nous allons évoquer. Gilbert Casabata, vous êtes professeur des universités, ingénieur, ancien président de, alors c'est le moment difficile, c'est celui des acronymes, de l'IRT, Institut de Recherche et Développement, Aéronautique, Espace, Citerne et Embarqué. J'espère que je ne me suis pas trop trompé. Vous avez été directeur scientifique de l'Institut pour une culture de la sécurité industrielle, c'est votre spécialité et nous allons en parler un petit peu plus tard. Au moment de la catastrophe, vous vous trouviez également sur le site de l'INP que vous avez dirigé jusqu'en 2000. Est-ce que j'ai commis une erreur ou est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Tout va bien. Je vais terminer par Bertrand Vessière. Vous êtes historien contemporainéiste à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, également journaliste, et vous êtes spécialiste de la construction de l'Union européenne. Pour autant, vous avez également publié, alors c'est plus léger que l'ouvrage de, on plaisantait là-dessus tout à l'heure, que l'ouvrage de Michael qui fait son poids, ce petit bouquin qui est absolument passionnant, qui a été publié en 2021 sous le titre 2001, l'explosion d'AZF, de l'usine nourricière à l'usine meurtrière, aux éditions Midi-Pyrénéennes. C'est pour ceux qui souhaitent le trouver ou l'acquérir, on pourra vous donner les références après. Je crois que les présentations sont faites. Il est temps de rentrer dans le bal. Je vais me tourner vers Michael Liopart pour une première question. Michael, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement les circonstances de la création de l'ONIA, ses objectifs initiaux, et pourquoi finalement l'État a choisi Toulouse comme lieu d'implantation d'une usine d'ammoniac et non pas un autre site, une autre ville ?
Alors, l'histoire finalement de l'ONIA puis d'AZF prend racine en réalité dans ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, lorsque la France a rencontré d'énormes problèmes d'approvisionnement en azote. Jusqu'à cette époque, la plupart des pays industrialisés devaient importer du nitrate de soude. C'est une sorte de pierre qu'on concasse en poussière, en poudre, qui contient un certain pourcentage d'azote. Et avec ce nitrate, en temps de paix, on fabrique des engrais azotés, et en temps de guerre, ça sert surtout à être affecté pour fabriquer des poudres et des explosifs. Or, à partir surtout de 1917, les Allemands, finalement, on va rencontrer une opposition sur le plan sous-marin. Donc, les Allemands vont faire couler nos cargaisons de nitrate, à tel point qu'on se rend compte qu'en avril 1917, il nous reste plus que 48 heures de réserve de poudre et d'explosifs. Et finalement, c'est le soutien des alliés qui vont nous permettre de gagner la guerre et d'éviter qu'on soit à court de poudre et d'explosifs. Si bien qu'en 1918-1919, le gouvernement va faire de cette question de l'approvisionnement en azote une cause première, une cause nationale. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Allemands, eux, avaient réussi pendant la guerre à se passer justement de nitrate et ils avaient inventé le procédé Haber-Bosch. Et ce procédé permet de capter l'azote directement dans l'air. Donc l'air que nous respirons contient 78% d'azote. Et à partir de là, on va réussir, grâce au traité de Versailles, à récupérer cette technologie allemande. Et le gouvernement va vouloir construire donc une énorme usine en France et va se poser la question de pourquoi Toulouse. Alors là, je vais essayer d'aller rapidement. Pourquoi Toulouse? Il y a eu trois raisons. La première, c'est qu'il fallait trouver un site qui puisse être à l'abri d'une incursion allemande. Parce qu'on oublie, en 14-18, on a eu un septième ou un huitième de notre territoire qui a été occupé pendant 4 ans. Et on sait qu'en cas de nouvelle guerre, personne ne sait quand est-ce qu'elle va arriver, mais ça sera une guerre qui va utiliser l'aviation. Donc là, on ne peut plus se permettre d'être à Paris ou d'être en dessous de Paris. Il faut être dans la partie sud. Et donc, va se poser la question, pourquoi Toulouse ? Parce que aussi on y trouve la plus grande poudrerie du pays et que donc l'obsession du gouvernement va être de reconvertir cette poudrerie et d'essayer de faire en sorte que la nouvelle usine que le coût de cette usine ne soit pas trop élevé. Et donc on pense que ce coût, on pourra réaliser de grandes économies en récupérant cette poudrerie nationale. Et enfin, le dernier élément qui va compter, c'est il n'y a pas assez de charbon à Toulouse, donc il va falloir le faire venir d'ailleurs. Donc ça veut dire que la compétitivité ne va pas être géniale sur ce point-là. Mais le gouvernement va simplement expliquer que le raccordement électrique, donc l'électricité, ne coûte pas cher à Toulouse grâce au contrefort pyrénéen où on a aménagé dans les années 1880 des barrages hydroélectriques. Voilà pour les trois raisons.
Alors, on a le pourquoi une usine d'azote, on a pourquoi Toulouse. Est-ce que Michael, mais Bertrand, Armand notamment peuvent compléter s'ils le souhaitent, est-ce que vous pouvez nous situer brièvement le contexte économique industriel de la France cette époque-là? On est en sortie de la Première Guerre mondiale et la situation du mouvement ouvrier. Alors, j'ai conscience que je vous pose une question qui nécessiterait une très longue réponse. Mais en quelques mots, est-ce qu'on peut dresser une petite carte postale de ces points-là sur la période?
Je te laisserai compléter si tu... Du coup, au sortir de la guerre, ce qu'on peut dire sur la situation déjà budgétaire du pays, donc notre pays a fait face quand même à le trésor public, on a énormément de dettes, sachant que les réparations vont arriver que petit à petit. La deuxième chose qui est quand même très importante à signaler, c'est que on a eu un cinquième environ de notre industrie qui a été amputée à cause des destructions qui se sont passées dans les régions du nord de la France, et si bien que on va aussi aller vers une crise de reconversion. Donc les années 20 vont être des années en réalité très difficiles parce que l'économie de guerre, donc qui s'est tournée vers la fabrication d'armes et d'explosifs, doit à nouveau être finalement redirigé vers des activités de paix. Et c'est dans ce contexte qu'il va y avoir une sorte des débats très techniques, légitimes, mais en même temps des cafouillages, puisque pendant 4 à 5 années, on ne sait pas finalement est-ce que c'est à l'État d'y aller, est-ce que c'est à l'industrie privée d'y aller. Et le problème, c'est que l'industrie privée manque d'argent et l'État manque aussi d'argent. Ce qui fait qu'on va essayer il va y avoir un débat. Et finalement, on va en arriver à cet office public, c'est-à-dire que c'est une usine au départ qui est à 100% constituée de capitaux d'État, alors qu'au départ, le scénario envisagé, c'était de dire l'État récupère le procédé Haber pour le rétrocéder à l'industrie privée. Malheureusement, pour des questions de localisation, l'industrie privée préférait construire ses usines, ses propres usines, plutôt dans le nord de la France, pour des raisons strictement économiques.
Alors, on va continuer à planter le décor avec Bertrand Vessière, s'il veut bien. Déjà, peut-être pour compléter, s'il le souhaite, ce que vient de nous expliquer Michael. Et puis, plus largement, comment l'ONIA s'inscrit dans cette période, quel était le rôle attendu, finalement, de l'ONIA dans leur construction et dans le développement économique, post-guerre.
Oui, alors, Michael a été très complet. J'aimerais juste revenir sur quelques points concernant justement la reconversion des activités qui intéressent notre sujet. Puisqu'il faut se rappeler qu'on l'a peut-être pas encore dit, que Toulouse n'a pas de tradition industrielle. C'est une ville qui est un petit peu provinciale, si je puis dire, à ce niveau-là. Donc ça nous rappelle que la naissance de l'ONIA n'était absolument pas évidente. Et que sans la Première Guerre mondiale, il ne se serait rien passé, concrètement. Parce qu'il y a quand même une activité dont tu as parlé, qui est effectivement la plus grande activité, qui est celle de la poudrerie. C'est quelque chose d'énorme. Hein. Pendant la guerre de 14-18, le journal La Dépêche appelait Toulouse Poudreville, hein, parce qu'il y avait des milliers de personnes, hommes et femmes, qui travaillaient pour cette industrie. Et effectivement, au sortir de la guerre, se pose la question de la reconversion de cet immense espace qui ne sert plus finalement, puisque la guerre est terminée. Enfin, il y aura toujours l'occasion de créer des armes, mais il fallait reconvertir une partie des activités vers quelque chose de plus pacifique. Et il y a un sujet que tu as plus ou moins abordé, effectivement, c'est celui des engrais azotés, ces engrais artificiels qui sont extrêmement productifs et dont la France a cruellement besoin, parce qu'on utilise essentiellement des engrais naturels, notamment le guano du Chili, qu'on importe à prix fort. Et donc là, il y a la possibilité de produire sur place ces engrais-là. Et concrètement, la Première Guerre mondiale ouvre cette possibilité, puisqu'en plus, ça tu l'as cité, la France va récupérer certains brevets allemands au nom des réparations de guerre, dont le procédé Haber que tu as décrit. Et tout ça rend possible l'installation ex nihilo de cette énorme usine, grâce aux circonstances et grâce aussi au volontarisme de l'État qui mène, tu l'as dit, une bataille de l'azote dont Toulouse va largement profiter.
Alors ça ouvre votre réponse ouvre le champ aux questions techniques. On va pas débattre très longtemps sur les aspects techniques pour deux raisons. La première, c'est que je vais pas suivre très longtemps. Et puis deuxièmement, c'est pas le sujet principal. Pour autant, il faut quand même qu'on arrive à comprendre. Donc Gilbert Casamata, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels étaient les principaux défis auxquels l'ONIA devait faire face lors de sa création et puis pendant son expansion
Oui. Le nitrate d'ammonium, c'est une commodité. On sépare en chimie grossièrement les produits en commodité, c'est-à-dire les produits de grand volume, de grande masse, souvent à valeur ajoutée faible, et les produits de spécialité, vendus avec des marges plus importantes, les médicaments, par exemple. Une commodité, une activité de production de commodité, ça perdure dans le temps si on maîtrise l'économie du procédé. Et sur toute l'histoire de l'ONIA à la ZF, en fait, l'enjeu, ce sera de maintenir un procédé compétitif, sachant que aujourd'hui encore, l'nitrate d'ammonium reste pratiquement, je pense, la commodité produite dans le plus grand tonnage dans le monde. Je crois qu'on doit être à 130 millions de tonnes de nitrate d'ammonium produites aujourd'hui. Que cette course à l'économie des procédés va conduire, par exemple, BASF en 2009 à fermer une usine, ce qui prouve que c'est pas facile. Mais en 2019, un groupe qui s'appelle Eurochem construit le plus gros complexe européen de production de nitrate d'ammonium. Les enjeux, c'est des enjeux, j'emploie souvent une expression qui est tondre l'œuf. C'est-à-dire les petits gains qu'on peut avoir chaque fois partout dans le procédé, sans qu'il y ait de modifications majeures. C'est un procédé qui utilise des hautes pressions, 200 bars. 200 bars, c'est, ben, vous êtes à 2000 mètres de profondeur sous la mer. Je sais pas si vous y êtes allé, mais c'est pas, paraît-il pas très confortable, et 400 degrés. Voilà, donc ça reste des procédés extrêmement intensifs en énergie. Les enjeux, c'est des coûts de compression, c'est comment on récupère l'énergie, l'intégration énergétique. Et chaque compagnie, chaque usine va essayer de développer ces technologies pour... Il n'y a pas d'innovation majeure.
Alors, c'était la question que j'allais vous poser. Il n'y a rien d'innovant.
J'ai cherché, et récemment, j'ai trouvé en 2023 des études vraiment très amont de laboratoire qui veulent développer un procédé révolutionnaire dit biomimétique, c'est un peu un terme à la mode, qui veut faire de la catalyse à pression réduite et à température ordinaire. Voilà, j'ai trouvé ça. C'est vraiment l'amorce d'un procédé de laboratoire. Mais massivement, il n'y a pas eu d'innovation majeure sur ce type de procédé.
D'accord, alors merci pour ces précisions. On a planté le décor d'une usine qui s'installe à Toulouse. On a une petite idée du contexte socio-économique, un petit regard sur la situation du monde ouvrier à l'époque. Bah, il est peut-être temps de franchir le portail de l'usine qu'on a sur photo. Enfin, c'est plutôt la grille, là. Armand Cassé, vous avez réalisé le film documentaire que je citais dans ma petite introduction tout à l'heure, L'Onia, une usine sortie de l'oubli. Vous y retracez l'histoire de l'usine, de sa création jusqu'à peu près aux années 60. Et on en reparlera dans un moment. Vous y posez toutes les questions de transmission de la mémoire ouvrière, etc. Pour l'instant, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur les conditions de travail à l'ONIA et surtout aux origines. Il semble que les conditions de travail, avant d'arriver à cette usine nourricière dont parle Bertrand Vessière dans son ouvrage, les conditions de travail étaient plutôt bonnes à une certaine époque, mais au départ, ce n'était pas vraiment le cas.
Non, bon alors, les conditions de travail ont été terribles en début de fabrication. Peu de personnes connaissaient l'industrie en tant que telle. C'était pour la plupart des gens qui venaient travailler, c'était des gens qui venaient des environs de Toulouse, c'était des paysans, c'était des cordonniers, c'était des pêcheurs de sable même, il y avait, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un pêcheur de sable, c'est-à-dire c'est des gens qui, dans la Garonne, avec des barges, récupéraient le sable du fond de Garonne pour pouvoir construire, etc. Donc c'était des gens qui n'avaient rien à voir pour les trois quarts avec l'industrie. Ce qui fait que quand ils arrivent là, ils se retrouvent devant d'abord des gaz délétères, avec des conditions de travail en équipe, c'est-à-dire ils travaillent en 3-8, ce qui fait que dans la mesure où c'est qu'ils ne savent pas conduire les appareils, il arrive beaucoup d'accidents. Par exemple, je vais vous citer un cas. Par exemple, il y avait une personne qui se disait électricien, donc il est embauché comme électricien. Un jour, il y avait des ampoules à changer sur une galerie. Pour vous dire les conditions qu'il y avait, le gars était en sandales dans un milieu où c'est humide, parce que le nitrate à la particularité d'être très avide en eau. C'est-à-dire, dès qu'il y a de l'humidité, il la pompe dans l'air. Donc, vous avez des sols qui sont recouverts de poussière de nitrate, très humide. Et il n'y avait pas, à l'époque, de terre. Hein, ça n'existait pas. Et l'alimentation, c'était des trolleys. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, des trolleys. Ce sont des câbles qui ne sont non pas protégés, qui sont juste... Il n'y a pas de gaine plastique autour. Ils sont entourés, ils viennent se mettre autour d'un verre, d'une pipe qu'on appelle, hein, c'est un verre. Donc, quand ils changent l'ampoule, ils touchent le fil et ils s'électrocutent. Vous voyez, parce qu'il n'a pas de gants, il n'a pas de chaussures de sécurité, il est en sandales, il marche avec des sandales qui sont des sandales en corde, en plus, qui prennent l'humidité. Vous voyez le style de conditions de travail qu'il pouvait y avoir sur l'usine. Donc, il y a un premier mouvement de révolte qui se fait. Beaucoup de gens s'en vont, démissionnent. C'est bien simple, à un moment donné, pour embaucher 500 personnes, ils sont obligés de contacter. Il y a à peu près 2500 personnes qui viennent travailler, mais il y en a 2000 qui s'en vont. Il n'en reste que 500. Et ils recherchent comme ça jusqu'à 1500 personnes. Donc, pour retrouver le personnel, il leur manque du personnel. Ils sont obligés de faire appel à des sociétés de recrutement dans les pays étrangers. Vous avez des gens qui viennent de Pologne, qui viennent d'Espagne, qui viennent du Portugal, qui viennent de Russie. Donc, vous avez tout un tas de gens qui arrivent là et qui n'ont aucune formation ce qu'est l'industrie chimique, en définitive. Et donc, c'est voilà les conditions de travail dans lesquelles pouvaient se trouver les gens. Par exemple, il y avait des grands silos dans lesquels il y avait des tas de centaines de tonnes, parce que l'engrais, c'est par campagne que ça se vend. C'est-à-dire qu'on répale l'engrais au début des cultures, c'est-à-dire une fois avant que le blé sorte, par exemple. Après, donc c'est des campagnes et donc on fabrique toute l'année pour libérer des stocks énormes au printemps. Et donc ces stocks sont stockés dans des silos qui font parfois 100, 150 ou 200 mètres de long, 20 mètres de haut. Et pour récupérer cet engrais, soit on a des norias, c'est-à-dire c'est des godets qui tournent comme ça, comme une chaîne avec des godets, et il faut amener l'engrais vers les godets pour pouvoir l'amener sur des tapis roulants qui, lui, va l'amener vers un lieu de stockage, enfin d'ensachage. Et donc, il y a une personne qui est chargée, dont plusieurs même, qui sont chargés de prendre avec des pelles et de faire glisser l'engrais dans ces norias. Et comme le tas est très haut, le tas s'écroule, il s'écroule sur la personne, et le temps d'aller le chercher, la personne meurt. Vous voyez, vous avez des conditions de travail qui sont terribles.
Alors effectivement, on voit bien qu'avant l'usine nourricière qui rayonne sur Toulouse un peu plus tard, il y a des débuts difficiles avec un management très très rude. Il y a des employés qui sont payés à l'heure, des salaires qui sont plutôt bas. Col blanc, col bleu sont pas du tout considérés de la même façon. Les conditions de travail et de sécurité sont très discutables. J'ai trouvé une anecdote assez savoureuse, hein, je me permets quand même là, en préparant un peu ce débat. Suite à plusieurs électrocutions, puisqu'il y a eu quand même des morts, il faut le dire, et apparemment il y a un génie des ressources humaines ou de la sécurité, Gilbert Casamata appréciera probablement, qui a émis l'idée que pour les nouveaux embauchés, on allait leur faire subir des tests de résistance à l'électricité pour voir comment ils résistaient quand ils se prenaient une décharge. J'ai trouvé que c'était assez...
C'est signé en plus. Hein.
Assez intéressant, et peut-être qu'il y a des gens ici qui ont mené quelques luttes qui n'était pas inutile, même si Serge Bagui n'était pas là à l'époque. Je pense que voilà. Donc, justement, ça amène à la suite. Les ouvriers de l'Aulnia, Armand, s'organisent très très vite et forment un syndicat dès 1926, c'est ça ?
Oui, en 1925-1926, les premières personnes qui viennent travailler sur l'usine, ce sont des gardes de la SNPE, de la poudrerie à côté. Et donc, ces gens-là sont souvent syndiqués parce qu'ils font partie des travailleurs de l'État. Et donc, ils commencent à se syndiquer. Enfin, d'abord, ils sont en section qui dépendent de la SNPE, puis très vite, ils créent leur propre syndicat. Mais le problème, c'est que à la SNPE, ils sont travailleurs de l'État, et à l'ONIA, ils ne sont plus que salariés. Ils sont dans le privé, puisque l'office est considéré comme un établissement privé par l'État, même si c'est lui qui a financé la construction de... Donc, il se trouve que ces gens-là commencent à vouloir un statut, ils se syndiquent pour avoir un statut des travailleurs de l'État, ce qu'ils n'obtiendront jamais, et dont la direction fera en sorte même de faire tout ce qu'elle peut pour les empêcher à avoir ce statut. Voilà. Ça, c'est une réalité. C'est la première des choses.
Oui, j'ai découvert aussi que leur dossier, toujours aux ressources humaines, était marqué d'une pastille rouge.
Oui, alors, tous les syndiqués étaient répertoriés, oui, alors, puisqu'il y avait des fiches d'identité par personne, où on mettait le nom, le prénom, l'âge, les enfants, là où il habitait. Et s'il était syndiqué, sur la fiche, il y avait une pastille rouge pour bien démontrer que le syndicat, qu'il était syndiqué, quoi, voilà.
Alors, c'est vrai qu'on est obligé de relater, remonter ce temps à grands traits. On pourrait passer des heures sur cette période-là.
Oui, on pourrait parler des punitions derrière. Parce que derrière, sur le verso de la fiche d'identité, on mettait les punitions. Si le gars avait été rentré en retard, il avait 2 heures de retenue. S'il lisait le journal il avait une demi-journée, on lui faisait sauter la demi-journée. Enfin, voilà, il y a tout un tas de petits trucs comme ça, jusqu'au plus grave, bien sûr, quand il y avait un accident. Bien sûr, souvent, c'était l'ouvrier qui était responsable et pas la direction. Voilà.
Alors, on est malgré tout... Pourtant, sur le chemin de cette usine nourricière, finalement, si je tire ce fil-là, on voit bien une direction d'usine pas vraiment bienveillante, avec ensuite, en plus, c'est l'État, donc Paris, c'est loin de Toulouse. On voit qu'à un moment donné, il y a des décès, par exemple, des accidents de travail, des maladies professionnelles qui sont même pas signalées, qui figurent pas dans les rapports qui sont envoyés au gouvernement sur l'état de l'usine. On pourrait encore y passer beaucoup de temps. Donc une direction d'usine pas très bienveillante, et pourtant, dans les années 30, ce chemin commence sur l'usine, vers l'usine nourricière avec les premières mesures sociales qui apparaissent, mais plutôt pour freiner les tensions. C'est plutôt parce que justement l'organisation des ouvriers fait qu'il y a vraiment tension et il faut faire quelque chose.
Alors oui, en premier, ils créent un PA, c'est-à-dire protection accident, et ils font des analyses d'accident. C'est le début de l'étude de l'hygiène et sécurité de l'époque. Oui, rappelle-moi déjà, tu voulais que je parle du...
C'était un peu les acquis sociaux.
Oui, alors...
Vous appelez comme ça, la
cantine. Voilà, alors il y a un premier restaurant qui se suit, parce qu'il n'y avait pas de restaurant au début, dont les revendications commençaient à arriver. Ils demandent à ce que soit créé un restaurant. Et le directeur, par exemple, écrit au conseil d'administration qui est à Paris, puisque c'est Paris qui gère quand même, et il dit il serait bien quand même de construire un restaurant d'entreprise, ça fidéliserait plus les ouvriers plutôt que de nous craindre à nous. Voilà, vous voyez, ils sont sur cette idée-là que s'il faut aider, alors donc il se crée une mutuelle, il se crée des œuvres sociales, il se crée le TAC. Le Toulouse Athletic Club, qui au début s'appelle Toulouse Azote Club. Donc voilà, il se crée quand même quelques organisations sociales pour le personnel. Mais ça a un but. Le but au départ, il est quand même assez mercantile, je veux dire.
Voilà, il y a aussi la ligne de tramway qui est créée cette période-là, je crois, qui servira à un moment donné aussi de support publicitaire. Vous avez de magnifiques reproductions juste à l'entrée, au-dessus de la table des ouvrages, avec quelques reproductions d'affiches publicitaires de l'époque, puisqu'en plus, la direction de l'ONIA va chercher à vendre aussi ses produits auprès des agriculteurs.
Alors, pour vendre ses produits, justement, ils vont se tourner vers des gens qui parlent l'occitan, parce que à l'époque peu de gens parlent français. Quand ils arrivent dans les foires, c'est surtout l'occitan qui est, et donc ils recrutent du personnel occitan pour pouvoir justement vendre leurs produits. Ça c'est quand même assez. Et alors juste une petite histoire. Alors donc avant la Seconde Guerre mondiale, les affiches publicitaires sont plutôt gentilles. C'est pour nourrir la France, il faut nourrir son sol. Donc ça, vous voyez, c'est des... Voilà. Et par contre, dès qu'on arrive après la Seconde Guerre mondiale, là, les publicités sont en rouge, en bleu, blanc, rouge. Donc, toutes les publicités sont en bleu, blanc, rouge. Et là, c'est très nationaliste. Par rapport aux publicités d'avant la guerre, c'est quand même rien à voir.
Alors justement, avant d'arriver à la guerre, moi, ce qui m'a frappé sur AZF, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec plusieurs d'entre vous, on voit bien qu'il y a une organisation des ouvriers, voilà, il y a quelques gains, quelques acquis sociaux qui commencent à se conquérir collectivement. Moi, ce qui me frappe, c'est que tout au long de l'histoire de l'usine, il y a une histoire, on évoquait ça avec Serge tout à l'heure, d'engagement, d'investissement, d'implication, et je crois que vraiment, ça, c'est une partie importante de la mémoire de l'ONIA. Je vois Michael acquiescer, va peut-être pouvoir préciser quelque chose. Notamment, on est à la fin des années 30, on est à Toulouse, on est proche de l'Espagne. Il y a, entre autres, une partie de l'histoire que les Toulousains connaissent bien, c'est la retirada, suite à la guerre d'Espagne, l'arrivée des Républicains. Et là, les ouvriers s'impliquent, s'engagent en termes de soutien, d'accueil, etc. Michael.
Armand me complétera, mais dans le contexte à partir déjà de 1935, le contexte politique qui va voir le rapprochement de la CGT et de la CGTU, puis aussi du Parti communiste avec la SFIO de Léon Blum, qui annonce les victoires électorales d'abord au municipal de 1935, puis surtout après en mai-juin 1936. Et donc là, c'est à partir de ce moment-là que les administrateurs de l'ONIA vont être contraints dans l'élan national de concéder au personnel une convention collective, ce que demandait le syndicat déjà depuis 1927-1928. Les salariés n'obtiendront pas le statut demandé, mais ils obtiendront une convention collective qu'on peut qualifier de rupture quand même dans le mouvement social. Cependant, ça ne va pas beaucoup plus loin que ce qui a été aussi octroyé aux autres industries privées, mais ça va marquer quand même une amélioration dans les œuvres sociales, dans la rehausse des salaires, des primes qui vont avec, quand bien même l'inflation en réalité a tout rogné. Mais ça, c'est deux années où il y a eu quand même un mouvement ouvrier offensif
qui jusqu'alors s'était heurté quand même à une direction d'État qui, quelque part, montrait que le social était secondaire pour lui. Et puis, dans ce contexte-là, avec la marche vers la guerre et la défaite la guerre d'Espagne d'abord entre 1936 et 1939, on voit que le syndicat, qui est alors un syndicat d'abord plutôt d'obédience socialiste, mais qui s'unifie avec les communistes, et on voit que le syndicat va vouloir associer le personnel à des œuvres de solidarité pour accueillir les exilés espagnols. Donc Armand va vous en dire un mot, mais il y a eu même une discipline syndicale qui va se mettre en place, notamment au niveau de je te laisse expliquer voilà ce qu'ils vont demander.
Oui, alors donc le syndicat va demander aux employés de verser une heure par 40 heures travaillées, ce qui était énorme à l'époque. Et donc ça va se faire et le syndicat va financer une partie des républicains espagnols, voilà, du combat des républicains espagnols. Ils vont recevoir des orphelins qui vont héberger au château de la Glacière à Saint-Simon, qui n'existe plus aujourd'hui, qui était au carrefour des quatre chemins, qu'on appelle. Hein. Bon, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, à côté de l'hôtel de Diane. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui savent où c'est. Voilà. Donc, il y avait le château de la Glacière. Et donc, là, c'était un lieu où on recevait les orphelins espagnols, qui étaient financés, entre autres, par les entreprises et par l'ONIA. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter.
Bertrand, je vous voyais réagir tout à l'heure pendant l'exposé de Michael. Vous vouliez compléter?
Ah non, il a été très complet. Non, non.
D'accord. Alors, on va continuer à tirer le temps, puisque en 1939, je crois, il y a quelque chose qui devrait parler à tous les gens dans la salle. C'est la construction du camp du Recebedou, à côté de Portet-sur-Garonne, qui a une vocation un petit peu particulière, puisqu'au départ, c'est conçu pour accueillir les personnels célibataires de l'ONIA. Et on va voir que, juste après, on n'est plus en 36, on est en 39, donc il y a un changement de gouvernement. Et le camp va changer totalement de vocation, Armand.
Oui, alors la cité du Recebedou, c'était au départ ce qu'ils appelaient une cité-jardin. Ils voulaient créer, pour les gens qui travaillaient à la SNP et à l'ONIA, une cité. Et donc, c'est des petits bâtiments rez-de-chaussée qui devaient faire une quinzaine de mètres de long, qui étaient séparés en deux. Et donc, dans ces appartements, dans ces petites maisons, vous avez deux familles qui pouvaient s'installer. Les WC étaient à l'extérieur. Il y avait une adduction d'eau. Il y avait un château d'eau qui a été construit en même temps. Mais le problème, c'est que la guerre de 1939 arrive. Et donc, il y avait des réfugiés espagnols, des réfugiés belges. Donc, ils se retrouvent sur Toulouse. Il faut savoir qu'en 1939 et 40, Toulouse comptait 200 000 habitants et avec les réfugiés espagnols, les belges qui venaient et ceux qui venaient du nord de la France, Toulouse s'est retrouvée à peu près au double, 400 000 habitants. Donc il fallait trouver des lieux pour les héberger et le Recebedou va servir à ça. Voilà. Et après, pendant la guerre, quand les Allemands occuperont la partie sud de la France, ils viendront occuper le... Ben, j'ai oublié un épisode entre les deux, c'est que en 1941, suite aux lois juives, anti-juives de Vichy, le Recebedou va devenir un camp d'internement avec une partie un peu ouverte et une partie vraiment fermée, barbelée, et où vont être entassés des Juifs avant de les envoyer sur les camps de concentration, d'abord à Drancy, puis dans les camps de concentration en Allemagne et en Autriche.
Alors on va voir effectivement dans quelques minutes comment l'ONIA justement traverse cette période troublée de la guerre, mais effectivement je trouvais que c'était important de marquer ça. Le camp du Recebedou, donc c'est la loi de 1938, le décret d'Aladier sur le traitement des indésirables, ça fait pleinement partie de notre histoire, avant Vichy, et effectivement que ce soit au Recebedou, à Noé et dans tout un tas de camps en Occitanie, puisque l'Occitanie a été la région de France qui a connu le plus de camps, enfin c'est pas le sujet de ce soir, mais effectivement, c'est d'abord les républicains espagnols qui sont internés, et c'est ensuite bien sûr les juifs et toute autre personne indésirable, y compris tziganes, homosexuels, etc. etc. Je voudrais me tourner vers Gilbert Casamata. Pour revenir peut-être un peu sur les conditions de travail dans l'usine, comment elles évoluent au fil du temps, et notamment ce qui vous intéresse particulièrement, la sécurité. Armand nous a expliqué qu'il y a des risques d'émanation, des risques électriques, des risques d'explosion déjà, même s'ils étaient moindres que ce que l'on a connu. Est-ce que l'ONIA constitue une figure de proue par rapport à ça, innovante sur le plan de la sécurité par rapport aux pratiques industrielles de l'époque? Et d'ailleurs, quelles étaient ces pratiques en termes de sécurité?
Alors, les évolutions vraiment visibles seront plutôt dans les années 80. Alors, si je fais ce saut dans le temps, il faut voir que en 1920, il fallait 1600 travailleurs pour faire 1000 tonnes de nitrate d'ammonium. Et partout, dans toutes les usines dans le monde, il en fallait plus que 55, justement, dans les années 80. Donc, une des grosses évolutions, c'est qu'en fait, cette production énorme se faisait avec plus personne. Et je me rappelle avoir évoqué avec Serge, avec Armand et avec d'autres personnes la situation de cette usine où, à la fin, il y avait un rondier avec sa lampe qui faisait le tour dans une solitude effroyable. Voilà, première chose, ça n'employait plus. Et on verra par ailleurs les conséquences que ça a. Sur le plan de la sécurité, voire des nuisances, c'est vrai qu'il y a toujours eu une confusion. Hein. C'est-à-dire que sécurité ne veut pas dire nuisance, et nuisance ne veut pas dire sécurité. Par exemple, officiellement, Serge me le rappelait tout à l'heure, depuis 1980, il n'y avait plus eu aucun accident grave de personne dans l'usine. Par rapport à ce qui avait été décrit par Armand tout à l'heure, c'est un changement prodigieux. Et d'ailleurs, les différentes sociétés qui ont exploité l'usine recevaient des médailles qui récompensaient cette sécurité. Sur le plan des nuisances, il en était tout à fait autrement. Et jusque dans les années 70-80, les riverains se plaignaient. Moi, j'étais riverain à l'école de génie chimique. Je me rappelle des émanations qui, d'ailleurs, créaient un microclimat. Qui se souvient des grands brouillards de Toulouse? C'est le fog de Toulouse, c'était Londres sur Garonne. Hein. Et donc, voilà, il y avait des nuisances. Je me rappelle, sur l'Institut de génie chimique, sur le site d'Ampalo, les riverains se plaignaient de la corrosion de leur voiture. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'il y avait une traduction qui est... On disait ça sent mauvais parce que les émanations, mais ça sent mauvais au sens propre, ça sent mauvais au sens figuré, parce que quand il se sent mauvais, ça veut dire qu'il y a un péril. Et les gens, sans mesurer le péril, avait un sentiment de péril à cause des nuisances. Mais ce n'est pas la même chose. Et on parlera plus tard des vrais sujets de sécurité.
D'accord. Alors, je vais continuer à suivre la chronologie, le fil du temps. On est avant-guerre. Avant qu'on s'attarde quelques minutes sur l'ONIA dans la guerre, peut-être Michael, Armand, Bertrand, à cette époque-là, comment est la relation de l'usine avec son environnement socio-économique, justement, alors de par les nuisances, mais également sur la partie sociale, économique. Comment elle est perçue, finalement, par la population et les acteurs de la vie économique et sociale?
En quelques mots, l'intégration de l'usine à l'environnement toulousain va être quand même assez médiocre, voire même difficile, jusqu'à la crise des années 30. C'est-à-dire qu'au départ, pour attirer énormément de travailleurs, dont Armand vous a expliqué que très peu de travailleurs, en réalité, avaient les aptitudes pour s'adapter à une usine, aux conditions de travail et à la nature chimique de la production. Donc, pour attirer et essayer de fidéliser tant bien que mal ces travailleurs, l'usine va essayer d'abord au tout début de hausser les salaires, c'est-à-dire proposer des salaires au-dessus de la moyenne régionale. Deuxièmement, ça marche pas très bien parce que ça reste relativement bas si on compare à d'autres régions. On offre des primes, on propose des primes. Sauf que les primes, ça remplace pas la réalité du travail. Et le patronat, donc par la Chambre de commerce et d'industrie, qui en réalité, il n'y a pas de très grosses industries à Toulouse, donc c'est en réalité des PME ou des TPE aujourd'hui qui vont surtout se plaindre via la Chambre de commerce, écrire au ministre pour dire que l'ONIA fait de la concurrence déloyale. Puis l'ONIA qui traverse des difficultés financières au début, on n'a pas eu le temps trop de le raconter parce que l'usine a démarré réellement en 1928 alors qu'elle a perdu 2 années, donc financièrement c'est compliqué. Les salaires finissent par stagner. Et rapidement, il y a une sorte d'enquête qui est faite par le gouvernement et qui se rend compte en réalité que 2-3 ans après, on ne peut plus dire que l'ONIA fait de la concurrence déloyale puisque les salaires sont à peine entre 5 et 10% supérieurs. Et puis, voilà, donc rapidement, ça va s'équilibrer. Concernant les nuisances, les dossiers sont beaucoup plus fins qu'ils le seront dans les années 80. Là, on est dans une autre mentalité et un autre rapport au risque. Mais il existe des plaintes de riverains, d'associations aussi, des associations de pêcheurs qui pêchent dans la Garonne basse. Et donc, que fait l'usine ? Elle va faire comme n'importe quelle industrie, privée ou publique, elle va faire une politique de la compensation financière. Donc voilà, et elle, le seul finalement, l'intégration positive qu'on voit dans les 10 premières années, elle va se faire petit à petit avec l'Institut de chimie de Toulouse, l'ICT, qui a changé de nom depuis, et l'université où on va essayer, on va voir des passerelles, des petites conférences. Et c'est finalement, pour essayer d'être bref, la crise économique qui va faire réaliser aux Toulousains que c'est quand même bien d'avoir une industrie avec plus de 2000 salariés. Et donc finalement, on va avoir un lignage de père en fils qui va commencer petit à petit. Et donc l'image, sans être aussi belle qu'elle sera après 45, puisque les œuvres sociales, en fait, elles vont vraiment éclater avec le comité d'entreprise après 45. Donc on pourra dire que l'ONIA aura été l'Airbus d'aujourd'hui après 45. Voilà. Mais pas avant, on a une image qui va s'améliorer parce que c'est le gagne-pain des Toulousains. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin.
Même audio ? Une mémoire sonore ?
On ne peut pas passer cette soirée. Après, en plus, que j'ai souligné cette notion d'engagement, moi, qui me semble très forte dans l'histoire humaine de l'ONIA, sans s'attarder sur la période 40-45. Hein, donc, en 40, mobilisation, ça vide un peu les effectifs, vous allez nous l'expliquer. Donc, lequel d'entre vous pourrait nous dire, en quelques mots, comment l'ONIA traverse cette Seconde Guerre mondiale ?
Oui, alors, dans le... À la mobilisation, il y a 800 personnes qui partent de l'ONIA. Et donc, ces 800 personnes, il faut les compenser sur à peu près un effectif de 2500 personnes. Donc, ça fait un gros trou. Donc, on demande au personnel de travailler jusqu'à 40 heures, voire 44 heures par semaine. Même un peu davantage, jusqu'à 50, certainement. Après, il y a des difficultés aussi d'alimentation. Donc, il y a une proposition de créer des jardins ouvriers. Donc sur Toulouse, il se crée 3-4 jardins ouvriers sur le bord du ruisseau où c'est qu'il y a le Mirail maintenant, du côté de Ampalo, du côté de la route de Montaudran, etc. Donc il se fait quand même, enfin, il se crée quelques... Et on distribue aussi des tickets pour des travailleurs de force. Ça, c'est pour l'organisation ouvrière, si vous voulez. Mais après, le syndicat vit jusqu'en 1941, jusqu'en fin 42 même, puisque en 42, fin 42, les Allemands arrivent sur le sud de la France et donc interdisent tous les syndicats. Et le secrétaire du syndicat de l'époque, qui s'appelait Dupuis, qui était une personne qui était proche du SFIO, même je crois qu'il était à la SFIO, Donc disparaît à partir de janvier-février. Il n'y a plus rien d'écrit sur les cahiers de rapport parce que le syndicat avait un cahier sur lequel il mettait toutes ses réunions de préparatoires, etc. Donc, et à partir de 1942-43, je dirais début 43, il n'y a plus rien d'écrit dessus. Il faut attendre 1945 pour que fin 44 pour que le syndicat renaisse. Entre les deux, on ne sait pas trop ce qui se passe. Le syndicat reproche à des gens qui vont créer FO en 47 d'avoir collaboré avec le système qu'avait mis Pétain en route. Voilà, à ce moment-là. Je connais pas trop comment ça s'est passé, mais certaines personnes ont cru que, en adhérant à ce nouveau style de syndicat qu'avait proposé Pétain, ils pouvaient continuer à revendiquer comme avant. Mais ça n'a pas été du tout le cas.
Alors par contre, l'engagement n'est pas forcément dans les luttes sociales, pourtant, mais il y a d'une part en 1943, c'est ça, janvier 43, Michael, occupation de l'usine par les Allemands, puisque l'usine étant passée sous contrôle de Vichy, il a fallu attendre 43. Et là, il y a un très fort durcissement des conditions de travail. Une direction très collaborationniste.
Alors, oui et non. Elle a collaboré sur la forme. Pendant longtemps, on a pensé que forcément, on est une industrie, on a forcément collaboré. Alors après avoir épluché quand même les rapports, les finances, parce qu'une industrie qui collabore, elle va vouloir collaborer, ça finit toujours par lui, au moins lui avoir profité une année sur les quatre ou deux années sur les quatre. Ce qui se passe avec Lonia, c'est que elle est ponctionnée de partout, ponctionnée en personnel. Il est 800, mais en fait, on parle d'un tiers du personnel. Deuxièmement, arrive la relève en 42, qui marche pas trop, donc le STO. On la ponctionne à nouveau. Troisièmement, elle est ponctionnée au niveau des matières non ferreuses, donc et sur certaines machines qui finissent en Allemagne. Et enfin, elle subit le fait que la plupart du potentiel industriel étant situé dans la première zone occupée, en réalité, Lonia n'a pas été, elle a plus été ponctionnée qu'intégrée à l'industrie de guerre allemande. Enfin, au niveau de son chiffre d'affaires, il a été diminué de un tiers, de la même manière que sa production a été diminuée d'un tiers. Alors qu'au moment de la mobilisation, au moment de la guerre de la drôle de guerre, l'usine était au maximum pour l'agriculture et pour être prêt à alimenter l'armée. Et on voit qu'à partir de 1941, elle est sous-utilisée et elle est ponctionnée. Alors concernant la question de la collaboration, ce que je peux dire, c'est que comme la plupart des grosses entreprises, effectivement, il y a eu des pétainistes dans cette usine. Il y avait même une section des miliciens. Voilà, donc on peut penser qu'il y ait une quarantaine de personnes qui ont fait vraiment partie de cette milice, mais comme dans les autres industries. En revanche, elle est très connue aussi pour ses faits d'armes au niveau de la résistance. Alors, il y a les résistants de la dernière minute, les résistants de l'avant-dernière minute. Ça, il faut le dire aussi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit quand même un jeu de chaise musicale dans le patronat de la chimie. Mais le directeur général lui-même, M. Cartier, dans sa dernière allocution lors d'un procès-verbal donc en 1944, il a un certain âge, donc il va aller en retraite anticipée, il va simplement évoquer des faits de résistance dont on ne peut pas trop évaluer, mais il est parlé quand même d'avoir sauvé des Juifs et d'essayer de les avoir envoyés en Espagne. On peut donner crédit à ce témoignage dans le sens qu'il y a eu une activité autour du cardinal Saliège, donc des gens qui étaient plutôt conservateurs, mais qui ont pris le parti, plutôt un parti gaulliste. Et de l'autre côté, on a une aile communiste très très forte qui va prendre le pas sur les socialistes dans le syndicat CGT à la libération et dont on sait eux aussi qu'ils ils habitaient un peu les maquis à partir de 1943.
Alors effectivement, on est malheureusement obligé d'aller très vite parce que le temps file et si on veut avoir un peu de temps pour parler d'autres choses et échanger. Pour autant, peut-être rarement, il y a quand même une très forte participation des ouvriers de Lonia à la résistance et notamment à la libération de Toulouse, notamment les milices patriotiques.
Oui, les milices patriotiques qui étaient René Batzal était un pilier. Et donc là aussi, il voulait gérer l'usine parce que à ce moment-là, il n'y avait pas de direction parisienne, donc il se sentait un peu en autonomie et il voulait gérer l'usine même. Mais De Gaulle, quand il est arrivé, quand il est revenu, quand il est allé à Toulouse, il a dit à Serge Ravanel que ça pouvait pas se faire et que il fallait revenir à une gestion. Ce qu'on pourra de qualifier de normal et capitaliste, voilà. Et par contre, alors ce qui s'est créé sur l'usine, c'est un comité d'épuration, par exemple.
Voilà.
Donc voilà, il y avait des petits mots qui s'envoyaient. Donc il y en avait certains qui connaissaient des gens qui avaient collaboré. Donc il les surnommait le petit galopin ou le. Donc il y a quelques petits, voilà, comme de petites dénonciations, mais sans citer les noms vraiment, juste en donnant des surnoms aux personnes qui avaient collaboré. Et ça, c'est une première. Après, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens qui avaient été embauchés très jeunes en 38, par exemple, ils avaient été embauchés à 18 ans, même pas, pour certains. Et donc, ils avaient été mobilisés, ils auraient dû être mobilisés à l'armée pendant les années où ils étaient sur l'Ognan, mais c'était la période de guerre. Donc, ils ont été mis, ils sont partis à un chantier de jeunesse. Et le problème, c'est que c'est un chantier de jeunesse, souvent, que les gens se sont radicalisés et ont été plus portés à aller vers le Parti communiste, qui, je pense, avait commencé à devenir important sur Toulouse. Il faut savoir qu'en 1939, quand le pacte germano-soviétique a été signé, la CGT demande aux syndicats de l'ONIA d'approuver ou de désapprouver. Et ils désapprouvent le pacte germano-soviétique. Par contre, si ça avait été... Mais c'était une direction qui était mélangée. C'est-à-dire il y avait du SFIO, il y avait du PC, il y avait pas plusieurs tendances à ce niveau-là, puisqu'ils venaient de ce... La CGTU et la CGT s'étaient unifiées juste après le congrès de Toulouse en 1936. Donc il y avait une unité et ils avaient réussi à voter contre le... Mais si ça avait été quelques années plus tard, peut-être que comme le PC avait été devenu majoritaire, peut-être que ça aurait été différent. Voilà ce que je peux dire à ce niveau.
Alors, il nous reste une vingtaine de minutes, 20-25 minutes avant de passer, donc on va être obligé d'aller vite. Le comité de libération, c'est un peu quand même, Armand va me dire si je me trompe ou pas, mais un peu les prémices quand même du futur comité d'entreprise. On voit arriver les sorties à la montagne, des sorties ski. Alors je passe sur le comité d'épuration sur lequel il y aurait beaucoup à dire, je suppose, mais on va pas avoir trop le temps là. Mais on peut dire quand même que la production reprend avec justement...
Oui, la production reprend, oui. J'ai relevé, je n'ai pas pris justement l'évolution de la production de 45 à 67. J'aurais pu le faire, mais j'ai plus pensé. J'ai pris la production qui était de 1927, du début de la production, à 1937, c'est-à-dire sur 10 ans. La production passe de 100 tonnes le jour à 400 tonnes le jour. Voilà. Et je pense qu'en 1945, au début de... Parce que comme l'usine a été bombardée, il y a un retard de production au début, pendant les premiers mois. Et là, le syndicat fait appel aux ouvriers en leur disant qu'il faut se relever les manches pour relever la France, etc. Donc, et on part, je pense, sur une production qui passe de 400 tonnes à presque 1000 tonnes le jour, quoi, hein. Dans les années entre 1945 et 1967. Ça doit être cette odeur de grandeur. Voilà.
Alors, on arrive doucement aux 30 glorieuses. Je suis obligé d'avancer, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. On va juste compléter avec la permission de Armand pour dire que De Gaulle, à ce moment-là, décide effectivement que l'État reprend le contrôle de l'ONIA, et c'est la fin des comités de libération, etc. Nous arrivons dans les 30 glorieuses, disais-je. Bertrand Vessière, on assiste à ce moment-là une accélération de la production de l'ONIA, c'est ça? En fin de Seconde Guerre mondiale, et de même qu'au développement de son emprise urbaine. Qu'est-ce qui explique cette évolution, puis alors, quelle est-elle?
Alors, ce sont deux faits concomitants. Donc, il faut parler effectivement l'un avec l'autre parce qu'ils sont liés. C'est vrai qu'il y a, on va dire que les Trente Glorieuses, alors il faut rappeler ce que sont les Trente Glorieuses, c'est une période de croissance exponentielle et d'élévation du niveau de vie dans les pays développés. Ça ne concerne pas que la France, ça concerne toute la zone occidentale. Et ça dure entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la crise de 1973. Donc près de 30 ans de croissance continue. Et c'est vrai que cette croissance continue concerne pour beaucoup l'ONIA, pour une raison très précise, hein, c'est que l'ONIA est très concernée par la révolution agricole qui se produit à ce moment-là. Et ces engrais azotés sont extrêmement utiles. Je pense à ce qu'Armand disait concernant les affiches qui sont plus agressives. Effectivement, il faut convaincre ces agriculteurs d'utiliser l'engrais pour gagner non plus la bataille de l'azote, mais la bataille du blé. Et là, c'est vrai qu'il y a une coïncidence, puisque justement dans les campagnes, il y a des changements structurels qui s'opèrent. Avec le départ à la retraite, le départ des vieux agriculteurs un peu traditionnalistes, un peu archaïques, qui sont remplacés par leurs fils, qui eux veulent des rendements, et qui ont compris qu'il y avait deux piliers pour obtenir ces rendements. D'une part, la motorisation, en l'occurrence les tracteurs qui commencent à arriver, et d'autre part, les engrais. Et là, l'ONIA peut offrir ces engrais. Donc c'est pour ça qu'il y a cette croissance énorme, qui se vérifie d'ailleurs par l'envolée du nombre d'employés de l'ONIA. On atteint dans les années 50 plus de 3000 personnes qui travaillent directement pour cette usine, ce qui est énorme, 3200 si je ne me trompe pas. C'est une époque donc de croissance exponentielle, on peut le dire. Et donc, effectivement, si je puis encore dire un petit mot, concernant l'emprise urbaine, ça suit logiquement. Il faut rappeler, on l'a pas assez dit, qu'au départ, l'ONIA se situe à 5 kilomètres du centre-ville, à une époque où Toulouse est un gros bourg qui se déploie essentiellement sur la rive droite de la Garonne. Et là, on va assister à une emprise urbaine qui va ceinturer l'usine peu à peu, à partir de 1945. C'est-à-dire que suivant le modèle Michelin, on va faire venir les ouvriers au plus près de l'usine. Voilà. Parce qu'avant, il fallait qu'ils aillent à pied ou en tramway ou en bus, ça prenait du temps. Là, ils vont être sur place, carrément, ce qui est beaucoup plus fonctionnel et beaucoup plus pratique. Et c'est comme ça que des quartiers entiers vont sortir de terre. D'abord parce que c'est vrai que Toulouse voit sa population croître énormément, mais aussi voilà parce qu'il faut que ces quartiers soient donc proches des usines. Je pense alors il n'y a pas que l'ONIA qui fait cet effort, il y a aussi la poudrerie voisine qui est à l'origine de la création de quartiers entiers comme Ampalo ou Niel, ou alors donc l'ONIA avec cette fois-ci le quartier Papus qui sort de terre entre la fin des années 40 et le début des années 50. C'est tout d'un coup 900 logements qui sortent de terre. Des logements qui sont très différents, ça peut être des petites maisons individuelles pour les cadres et des petits immeubles pour les ouvriers. 900 maisons, un centre commercial, une école, etc., etc. Donc il n'y a plus de ceinture, voilà, il n'y a plus de ceinture au bout de 10 ans, 15 ans autour de l'ONIA. Et je dirais que la politique de la ville contribue encore à cette densification, avec à la fin des années 50. En 1960, la ZUP, la zone à urbaniser en priorité du Mirail, hein, qui est décidée à ce moment-là et qui se situe, donc qui prévoit 25 000 logements et capable de loger 100 000 habitants, tout ça à 1 km à l'ouest de l'usine.
Alors, Bertrand évoque une croissance exponentielle, et y compris en termes d'effectifs. C'est également une ère d'avancée sociale qui commence dès 1946, enfin en tout cas au moment de la reconstruction, après la libération, dont Bertrand a cité les constructions des cités, Papus, c'était 1948, Papus, je crois. Enfin, oui. Vous allez y revenir. Là, on a besoin peut-être du regard d'un historien ou autre. Il y a deux questions. La première, je n'ai pas posée jusqu'à présent, mais elle me brûle les lèvres, c'est la question de la place des femmes. Alors, on a très peu parlé au début de l'usine. Est-ce que là, la place des femmes change? Quelle est-elle? D'abord parce que c'est l'époque où le droit de vote pour les femmes, voilà. Et puis toutes ces avancées sociales, est-ce qu'on peut peut-être quand même repréciser au plan national, mais également au plan local?
D'accord, je vais peut-être répondre pour le comité d'entreprise et je te laisserai répondre pour les femmes. Voilà. Effectivement, donc le comité d'entreprise, on en a parlé il y a un instant, il est créé en 1945 et il est extrêmement ambitieux, il a des moyens très importants, une politique très active. Et dès lors, on peut dire que ce comité d'entreprise va accompagner les ouvriers dans leur quotidien, dans des événements qui peuvent être heureux, participation au mariage, au baptême, ou malheureux, les enterrements. Il y a une politique sociale et des œuvres sociales très importantes qui visent par exemple à aider des fils, des filles d'employés à poursuivre leurs études, ce qui est un luxe à cette époque. Parce qu'il est difficile, quand on est fils d'ouvriers, de faire des études prolongées. Et puis, des camps qui sont créés un peu partout, des camps de loisirs, des camps de repos, en bord de Méditerranée, dans les Pyrénées, des sanatoriums aussi. Donc il y a cette politique extrêmement ambitieuse qui explique aussi pourquoi il y a cet engouement pour l'usine. On veut être de l'ONIA, en fait. Il y a une fierté déjà, une fierté véritable.
On va en reparler, effectivement.
Voilà, et on veut en faire partie. Finalement, il faut être de l'ONIA un peu, on pourrait faire la comparaison à l'échelle nationale, comme il fallait être de Boulogne-Billancourt quand on travaillait pour Renault à Paris. C'est un peu comparable.
Alors, il y a effectivement...
Oui, juste par rapport à la place des femmes. Alors, c'est une question un peu très compliquée parce qu'elles sont en nombre extrêmement marginales. En tout cas, pour la période jusqu'aux années 60, on les compte avec les doigts de la main et peut-être quelques doigts de pied, mais pas plus. Je dis ça parce que, ceci dit, on peut évoquer une question. Quelle est la place des rares femmes qui étaient sténodactylo, etc. Je pense qu'il y avait toujours les clichés, puis le regard de l'époque sur la place de la femme dans son rôle domestique, puisqu'on le voit dans la politique sociale. On pense surtout aux mères et aux familles nombreuses, donc aux chargés de famille, donc avec la question des primes d'allaitement, des primes de naissance, etc. Donc c'est toujours la femme qui est ramenée à ce rôle domestique. Mais pour les rares employés dont on a une trace, on a dans le comité d'épuration et le comité de gestion en 44, il y a une certaine Madame Blaise qui fait partie des 10 membres et qui a toute sa place visiblement puisqu'elle est à chaque fois mentionnée et qu'elle participe aux réunions. Donc ça montre que dans la tradition syndicale socialiste et je dirais plutôt communiste, puisqu'il y a sur les 10, il y en a 8 communistes et 2 autres de notre parti politique. Donc on voit qu'il y a la place dans le militantisme. On la retrouve à l'ONIA, mais de façon vraiment de façon très très marginale. Voilà.
D'accord. Et donc, effectivement, je voulais revenir sur la période que décrivait Bertrand précédemment. C'est une période de regain d'énergie pour l'ONIA, et puis c'est, semble-t-il, une période qui induit un certain sentiment, ou plutôt un sentiment de sécurité certain pour les employés, le comité d'entreprise. Alors, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais c'est la loi qui a imposé le comité d'entreprise à cette période-là. Ce n'était pas juste la volonté de la direction. Il y a quelque chose, alors je ne sais plus, c'est dans le livre de Bertrand, ensuite Michael, donc on rendra à César ce qui est à Bertrand ou à Michael. Les habitants de Papus, à cette époque-là, disent « Tant que les cheminées fument, elles gagnent de l'argent, on est tranquille ».
C'est... Non, mais bon, ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans plusieurs articles ou livres. Mais c'est vrai que c'était l'idée que Armand me complétera, mais le rapport des gens et pas que des Toulousains au risque, c'est que la prospérité économique vaut le fait qu'on prenne des risques. Aujourd'hui, on a complètement changé. La sociologie, la psychologie, notre psychologie collective a évolué. Je rappelle que juste avant la création de l'ONIA, quelques années avant, en 1921, à Ludwigshafen en Allemagne, il y a une explosion d'une usine d'ammoniac synthétique qui fait 561 morts et qui détruit les 3/4 de la ville de Ludwigshafen, qui est plus petite que Toulouse quand même. On va construire une usine à Toulouse et on va essayer d'en construire plusieurs en France. Et je précise aussi que s'il y avait eu un drame comparable à ce que malheureusement nous avons vécu le 21 septembre 2001, si ce drame était arrivé, et je m'appuie sur les propos du sociologue M. Chasquiel, si ce drame était arrivé dans les années 60, il y a fort à parier que l'usine aurait été reconstruite. Parce qu'on était encore dans une période où le primat de l'économie, l'économie l'emporte sur les considérations autres, sociales ou sociétales. Voilà. Par rapport à la gestion du risque.
Juste pour dire que les gens de l'ONIA, je confirme ce que disait Jean-Claude, c'est que quand ils voyaient la fumée sortir des cheminées, ils disaient tant que l'argent, tant qu'elle fume, c'est qu'on va gagner, de l'argent et on aura de l'emploi. Ça, c'est clair. Hein.
Voilà, et je pense qu'effectivement, je n'ai pas attribué au bon César cette anecdote, puisque ça doit être dans le documentaire d'Armand, c'est ça. Donc, toutes mes excuses. Il va falloir qu'on accélère, Bertrand, ce développement qui a été décrit, exponentiel. Il atteint son pic vers la fin des années 60, et puis, curieusement, après, la courbe s'inverse. Enfin, curieusement, je ne sais pas, mais vous allez nous expliquer. L'ONIA change de nom, début des années 60, elle devient APC. Et du coup, tout rebascule en sens inverse. C'est quoi la cause ?
Le changement de nom de l'ONIA en APC, azote et produits chimiques, date de 1967. C'est un changement de nom qui, d'ailleurs, ne concerne pas les Toulousains qui continueront à appeler l'usine l'ONIA. Jusqu'à nos jours, on peut le dire. Oui, effectivement, il y a un changement brusque par rapport à la période faste que j'ai signalé tout à l'heure et qui se vérifie par la chute des effectifs. On avait atteint un pic dans les années 50 avec plus de 3000 employés. On va passer brusquement à la fin des années 60 à 1700 et bientôt à 1200. Donc moins de la moitié, c'est un chiffre très important. Par contre, dire qu'il s'agit d'une déprise économique, c'est un peu exagéré. Parce que ce qui se passe, c'est que l'ONIA est de plus en plus, enfin APC désormais, est de plus en plus productif. Voilà, les machines ont été changées. On a besoin de moins de bras, tout simplement. Voilà. Donc ça, il faut en tenir compte. Et j'ajouterai deux autres points, et là qui sont en rapport avec l'image de l'usine, puisqu'on parle ici d'imaginaire aussi, concrètement. Elle change aussi à la fin des années 60, ça correspond presque parfaitement. Bon, d'une part, le pôle chimique n'a plus la même aura qu'il avait auparavant, qu'il a perdu en perdant son nom d'ONIA. parce qu'il y a d'autres activités qui se développent à Toulouse et qui sont extrêmement, je dirais, médiatiques. Je pense évidemment à l'aéronautique, qui existait déjà, mais qui s'envole, si je puis dire, à ce moment-là, avec les essais de Concorde à partir de 1967, le lancement de ce qui sera le best-seller d'Airbus avec l'A320 au début des années 70. Donc ça compte beaucoup. Ça fait que, peu à peu, l'ONIA, devenu APC, donc passe au second plan. Et j'ajouterai un dernier point, et ça a été abordé par Michael, il y a un changement de sensibilité aussi qui se fait à ce moment-là. Un changement de sensibilité très important. On découvre tout d'un coup qu'effectivement l'ONIA est un endroit qui pollue. Voilà. C'est la question environnementale qui prend de plus en plus d'importance. On peut la situer dans le temps national avec la création d'un ministère de l'environnement en 1971, ou avec la présentation aux élections présidentielles de 1974 du premier candidat écologiste qui était René Dumont. Donc voilà, d'un coup, effectivement, là aussi, ça contribue à faire que l'image de l'ONIA s'obscurcit un peu plus.
Alors, on va essayer de revenir sur notamment cette image et cette question avec Gilbert Casabata dans quelques instants. Serge, vous vouliez réagir?
Oui, j'arrive dans ces années-là, c'est-à-dire les années 70, donc 50 ans après la création, donc 74, avec le statut APC, justement. Et c'est vrai que c'est en pleine... D'abord, on s'inscrit dans cette tradition d'engagement. Moi, je suis à la CGT, évidemment. Ben, évidemment, d'abord, voilà, c'est mon engagement. Et on s'inscrit dans cette tradition. Alors, moi, j'arrive à l'entretien, après, je passerai en 3-8, puis je finirai au centre de recherche, et on s'inscrit tout à fait dans cette histoire de moi je me retrouve avec, bon, il y a Robert Héritier là, il y en a d'autres qui vont transmettre ce bâton de l'engagement qu'on va prendre et qu'on va continuer sur les 50 dernières années, c'est-à-dire grosso modo des années 74 à aujourd'hui, hein, puisque bon voilà, entre-temps il y a eu l'explosion de l'usine. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Automatisation de l'usine. L'usine s'automatise et se débarrasse d'un certain nombre d'activités. C'est-à-dire, comme beaucoup d'autres usines, hein, l'entretien est sous-traité. Un certain nombre d'activités sont sous-traitées. Moi, j'étais à l'entretien dans les années 80. On va mener une bataille. On va obtenir l'embauche de 50 personnes qui vont obtenir le statut APC. Bon, je pense que c'est la dernière grosse bataille d'embauche d'un secteur massif qui était sous-traité. L'usine s'automatise. Moi, quand j'arrive, on est en 74, on est 1200. Quand l'usine explose en 2001, j'étais au comité d'établissement, on est 456. On est 456, mais la sous-traitance représente un effectif de 100 personnes permanentes tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a un équivalent temps, il y a 100 personnes qui rentrent tous les jours en effectif sous-traitant. Donc on est dans une véritable automatisation de l'usine, arrivée massive de la sous-traitance, et comme il a été dit, les productions sont encore plus importantes. On sort en 98-99, on sort d'un dégoulotage, d'une augmentation de production. On passe de 1000 tonnes à 1200 tonnes d'ammoniac jour. Et l'ensemble des productions sont au maxi. Et Toulouse, paradoxalement, est considéré, paradoxalement par rapport à ce qui va se passer le 21 septembre, est le fleuron de Grande Paroisse, puisqu'on était Grande Paroisse, c'est le fleuron. C'est là où les productions sont au maxi, c'est là où on a diversifié les productions. On fait du chlore, on fait des cols 100 à 200 tonnes jour, 50 tonnes de produits chlorés, de la mélamine massivement, 50 tonnes de mélamine, en plus des grosses productions, 150 000 tonnes de nitrate an. Il faut dire que c'est des tonnes, c'est phénoménal. Je veux dire, quand on s'y met, c'est des wagons entiers qui quittent l'usine tous les jours sur les productions. Et donc on est en plein... On est en train d'habiller la mariée. Le but, c'était éventuellement de la vendre à un groupe belge. Et ce qui peut avoir étonné 2001, on ne va pas le développer là, ce qui a pu étonner, c'est dans cette période de technicité croissante, hein, comme a dit Armand tout à l'heure. On embauche des gens pas formés dans les années 20. Après, on va embaucher des gens, des pros. Hein. Moi, j'ai fait un saut à l'entretien dans ma carrière professionnelle, des pros, des gens qui savent ce que c'est, des fraiseurs, des tourneurs, des alaiseurs, massivement. C'est plus de 200 personnes qui bossent dans des ateliers d'entretien, des chaudronniers. Là, il y a Robert Héritier qui est là, chaudronnier, voilà. Donc voilà. Et puis l'usine, avant 2001, on embauche énormément de BTS. Donc la formation est beaucoup plus importante. Et le paradoxe, ça va être qu'avec une usine qui marche bien, avec une rentabilisation poussée, avec des automates partout, des gars dans les salles de contrôle, des gars de mieux en mieux formés, bon voilà, elle va exploser le 21 septembre. Et là, voilà, ça va être une incompréhension importante, malgré tout le passé qui vient d'être développé, ça c'est super important, ce passé de mobilisation, ce passé de combat pour les avantages sociaux. En 1989, c'est hier, 88, on négocie les 35 heures. On a Sanofi qui a 21 jours de congé, on obtient 11 jours de congé supplémentaires. Donc on est encore en certaine progression des avantages acquis, qui est notre ADN. Eh bien, malgré tout ça, elle va exploser. Et il faut avouer que ça a été déroutant pour énormément de salariés d'arriver à dire la sécurité s'est améliorée. Bon, c'est ce qui a été dit aussi. Il faut se rappeler, moi j'arrive en 74, je ne dis pas qu'il y a un mort tous les ans, mais pas loin. Un gars décède à Luret, une pompe à gare Bamad, je pense que Robert Héritier, il pourrait préciser, il y a des morts réguliers. À partir des années 80, on améliore la sécurité. Gilbert de Tersac a fait un boulot là-dessus. Ça va être un des paradoxes de la sécurité. Bon, on n'est pas tout à fait d'accord avec Gilbert de Tersac. On améliore la sécurité. On n'a plus de victimes, malheureusement. 21 ans après avoir mis ça en place, c'est des chiffres fous. On a 21 morts, comme si on allait rattraper tout le boulot. Et d'où l'incompréhension massive qu'il y a pu y avoir au niveau des salariés, qui étaient des salariés aguerris. Il y a le représentant de la CFDT qui est là ce soir, CFDT forte, CGT évidemment l'avait pris la majorité en 95. Malgré ça, malgré leur d'être aguerris, eh bien voilà, ça va poser des problèmes dans les prises de position.
Alors messieurs, je suis obligé d'asséner une vérité. Swatep, ça fait 1h17 que nous avons démarré cet échange. Je ne sais plus qui disait avant que le public rentre dans la salle. Bon, on va faire 1h10. Bon, donc on est tous capables. Bon, en tête, j'ai de quoi tenir 3 heures dans les questions et je sais que vous avez de quoi faire 4 heures dans vos réponses. Donc pas de souci. Il va falloir me faire confiance. Je vais essayer de regrouper dans quelques questions pour qu'on puisse avoir un temps d'échange avec la salle, en tout cas celles et ceux d'entre vous qui vont souhaiter vous poser directement des questions, et puis ne pas faire trop long pour autant. Je voulais qu'on puisse dire un mot sur, à nouveau, cette période-là, la perception de l'usine dans Toulouse, c'est dans notre sujet. Gilbert Casabata, quand on a discuté pour préparer cette soirée, vous m'avez dit « la ville est allée à l'usine et non pas le contraire ». Et je trouvais que j'ai envie de vous demander de détailler peut-être un peu plus que ne l'a fait Michael ce point.
Très bien dit. Ça s'est fait naturellement. Je veux dire, on a construit des logements, on a construit des jardins. On a parlé du TAC, le Toulouse Azote Club, enfin le Toulouse Athletic Club. Moi, mes enfants, j'étais riverain, mes enfants allaient au TAC. Et j'ai même été, je crois, entraîneur adjoint de l'équipe de foot minime, pupille. C'est-à-dire que je portais les ballons et les oranges. Et pour valoriser mon bras. Donc voilà, on vivait avec ça. Je voudrais pas finalement rebondir sur ce sujet en évoquant ce que vous avez dit tout à l'heure, l'aversion au risque ou l'acceptabilité. Et sur le fond de grands remplacements de la chimie par l'aéronautique. Alors je vais prendre à l'envers. Quand André Turcat a démonté les toits de Saint-Martin-du-Touche avec son Concorde, tout le monde trouvait ça rigolo. Même les riverains trouvaient que c'était un tribut qu'il fallait payer pour le progrès. Donc, on était dans une vision, un à disque ou bénéfice, pardon de dire ce mot, comme ça. Aujourd'hui, on est dans une vision plutôt tolérance zéro, hein, risque zéro et principe de précaution. Mais l'histoire d'AZF, c'est vraiment une histoire d'analyse coût-bénéfice. Tant que ça emploie beaucoup et que ça apporte de la prospérité, on supporte les fumées. Le jour où ça emploie 456 personnes et qu'on se retrouve au milieu de la ville, ça devient inacceptable. Parce qu'on a bouleversé l'analyse coût-bénéfice. Les anglo-saxons sont extrêmement réalistes par rapport à ça. Les théories de sécurité anglo-saxonnes parle de la valeur statistique en dollars de la vie humaine d'un humain quelconque anonyme. C'est-à-dire, bon, on fait un truc, c'est un risque, combien ça va coûter ? Et on sait comment les avocats et les assurances sont présents dans ce genre de sujet. Mais ils font l'analyse en dollars. On dollarise le risque. Nous, on n'est plus du tout dans ça absent. En France, on n'y est plus du tout en ce moment.
Alors, effectivement, j'ai la mission de contrôler un peu le temps et donc d'arriver rapidement. J'aimerais qu'on ne se quitte pas sans évoquer ces questions d'héritage de mémoire qui sont très très présentes dans l'esprit de chacun d'entre vous. Une question pour Serge Bagui et Armand Cassé. À cette période-là, qui vient d'être décrite assez de manière assez complète, est-ce qu'il y a une aura particulière de l'ONIA qui est forte ? Comment est-ce qu'on est considéré dans son quartier quand on est de l'ONIA ? On a évoqué ça avec Gilbert, de toujours au téléphone.
À l'époque, quand on était dans... moi, j'habitais Papus, donc c'était que du personnel de l'ONIA qui arrivait là, qui était là. Donc on avait peu de... S'il y avait la cité de l'EDF, la cité des Castors à côté, voilà. Mais on était entre nous. C'est-à-dire qu'on connaissait... Moi, quand je suis allé travailler à l'ONIA... Bon, au départ, j'étais pas du tout, j'étais menuisier, donc ça avait rien à voir avec ce que j'allais faire par la suite. Donc, c'est le hasard d'entreprises qui m'ont embauché, qui ont fait que je me suis retrouvé dans une filiale de l'usine qui s'appelait l'Atomecap et dans lequel on fabriquait des adoucisseurs d'eau. Et donc, enfin, ils voulaient fabriquer des adoucisseurs d'eau, donc ils avaient besoin d'un menuisier, donc ils m'ont embauché pour ça. Et quand je suis arrivé au restaurant, quand je suis arrivé donc dans cette usine, je connaissais déjà, je vais pas dire tout le monde, parce que à l'époque, en 72, il y avait encore 2100 personnes, je crois. Donc, je connaissais pas tout le monde, mais je connaissais quand même quelques-uns. Voilà. Ça, c'est des, et donc, comme on était entre nous, on était contents de se retrouver. Voilà, on n'était pas, en fait, moi, les cités à côté, on ne les fréquentait pas trop. On était entre nous, je pense, à Papus. Voilà. Et je voulais juste rajouter une chose, parce que moi, une chose quand même qui me symbolise un petit peu ce que c'est que l'ONIA. En 1956, le doyen de la faculté de médecine de Toulouse crée le service de récupération du sang, de collecte de sang dans les entreprises. Donc, toutes les grandes entreprises sont sollicitées, dont l'ONIA. Et il y a tellement de gens qui se proposent de donner le sang à l'ONIA qu'il se crée une amicale. Et dans cette amicale, il y a une personne qui s'appelait Nakash, qui était le frère du nageur toulousain. Alfred. Et cette personne connaissait un projet de cité de donneurs de sang à Gratintour. Et donc il propose que les gens de l'amicale créent une créé avec l'aide des HLM de la rue des Chalets, je ne sais pas si vous connaissez rue des Chalets, donc de créer d'acheter un bout de terrain et de construire des villas pour le personnel de l'usine. Voilà, moi je trouve que ce symbole là c'est un peu ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire c'est les gens qui étaient solidaires entre eux, qui étaient prêts à donner leur sang, mais aussi pouvoir construire comme la cité des Castors à côté de Papus, donc de s'associer pour pouvoir entre eux, avec eux, et à la fin ils ont même associé des gens de l'EDF et de la SNCF et de la poudrerie pour créer cette cité qui est aujourd'hui à Pensaguel, donc voilà, et où il y a eu quand même presque 300 maisons qui ont été construites et dont les gens au départ Voilà, on crée cette cité, pas plus souvent, cette cité de donneurs de sang. Voilà, c'est un peu le symbole que je retiendrai de ce qu'a été l'ONIA pour moi.
Serge, avant qu'on puisse...
Ce que je peux dire, c'est que je pense que... ça a quand même été assez fort le 21 septembre. Je pense qu'il faut s'engager. C'est-à-dire que... Alors, moi, je suis depuis 2012, j'habite les Minimes. Et on a deux sites Céveso. Donc, ça tombe bien. Notre usine était Céveso. On suivait de très, très près la dynamique des usines à risque. Et donc, voilà, je mets mon expérience de l'usine et de le procès qui était un véritable casse-tête pour le quartier, c'est-à-dire pour suivre les deux sites de SO, qui est un entrepôt de 35 000 tonnes. Il n'y a pas beaucoup de dynamique, mais c'est un site Céveso quand même. Et aujourd'hui, de la pollution au plomb dans le quartier, que je suis de près avec le comité de quartier auquel je fais profiter de cette expérience. Alors moi, je ne vous cache pas, je préfère qu'on fasse ça que d'être replié sur soi et de se demander encore, comme le font certains de anciens salariés, et voire même des combattants, c'est terrible ce qui s'est passé, qui continuent à chercher, à se demander qu'est-ce qui a bien pu se passer. Est-ce qu'il n'y a pas un complot? Est-ce qu'on ne nous cache pas quelque chose, etc. Donc, alors qu'il y aurait eu de quoi, un peu comme à Job, qui ont gagné la lutte de Job, de faire profiter notre expérience sur nos usines pour... Alors moi je suis investi dans ça. Et la deuxième chose que j'ai dit, je pense que c'est l'engagement qui peut nous tirer d'affaire dans de nombreuses situations. Moi, je vois, je suis président du comité de quartier de l'autre côté du canal. Et le fait de s'investir aujourd'hui sur le quartier, à travers tous les problèmes de densification, etc., je pense que c'est là qu'on apprend quels sont les acteurs, qu'est-ce qu'ils font, les politiques, les différents acteurs des problématiques. C'est comme ça que Alors, les chemins de la République, ils sont parfaits pour ça. C'est une bonne école. Alors, l'explosion, malheureusement, on l'a subi comme le loup, ce qu'on a dit. Il a surgi dans la berge. On ne s'y attendait pas. C'était pas inscrit. Ça a entraîné un grand désarroi chez les salariés. J'aurais pu penser, en ce qui me concerne, que les plus aguerris auraient été plus vaillants, de mon point de vue, je vous le dis, par rapport à la direction qui a essayé de nous amener sur un terrain où on ne saura jamais ce qui s'est passé. Alors qu'on est quand même une entreprise où il n'y a que des techniciens. Avouez quand même, 20 ans après, continuer à dire on ne sait pas ce qui s'est passé, alors qu'on n'est pas dans un... On n'est pas dans des cours de théologie. C'est une boîte que des techniciens et d'une entreprise parfaitement technique et qui a joué le jeu de ne pas savoir ce qui s'est passé. Donc voilà, moi je mets mon expérience au service du quartier.
Alors messieurs, mon cœur saigne de devoir clôturer rapidement. Je pose un challenge sur la table. Il nous reste 4 minutes. Je voudrais poser deux questions sur lesquelles je vous demande d'être bien évidemment le plus bref possible, même si ça mériterait d'être très développé. Gilbert Casamata, vous avez exposé les problématiques de sécurité, le travail des ingénieurs. Vous venez de nous expliquer, il y a quelques minutes, la question de la dollarisation, c'est ça, des vies humaines, etc. Et vous avez quelque part consacré votre vie professionnelle à ces questions de sécurité, d'anticipation de risques, de gestion de risques. Et la problématique en la matière, elle n'est pas seulement technique et scientifique. Il y a beaucoup de choses qui relèvent de l'humain, donc très brièvement. Est-ce qu'il est nécessaire d'intégrer aussi une réflexion de sciences humaines dans les questions de sécurité? Elle ne vous étonne pas. Et du coup, est-ce que la catastrophe a changé quelque chose là-dedans?
Oui, ça a été une révolution. D'abord, la sidération. Alors, excusez-moi de ramener ça toujours à une situation personnelle. Le 11 septembre à 10h du matin, je suis sur le site de l'école de génie chimique qui est mitoyen. Je ne sais pas si vous voyez... Oh, vous voyez pas. Il y a un casino maintenant à la place. Ça, vous voyez. Donc, à l'époque, c'est une école d'ingénieurs. Et je vois cette école entièrement détruite par l'usine qui est censée employer nos diplômés. Alors, la question immédiate, qu'est-ce qui va pas? Dans ce qu'on leur apprend, qu'est-ce qui va pas pour qu'on arrive à ça? Et donc, on peut se poser des questions sous plusieurs angles. Est-ce que c'est une affaire de technologie? Intrinsèquement, les procédés à SNPE, AZF, atolochimie étaient des procédés sûrs, on l'a dit. Et à l'époque, j'ai failli me faire tuer quand j'ai dit en tribune, face à une atteinte majeure, le site industriel a prouvé qu'il était robuste. Parce que si les réserves de produits chimiques, de chlore, d'ammoniac, la conduite de phogène qui passe sous la rocade, j'en passe, et des meilleurs, si tout ça avait cédé, c'était une catastrophe d'une ampleur encore beaucoup plus grande. Et je voudrais quand même, pardon, c'est long, mais il faut le dire, j'étais de ceux qui ont souffert qu'on cloue au pilori les personnels. Les personnels de ces usines, quand ils ont fermé les bonnes vannes, quand il fallait, dans la catastrophe, ont sauvé Toulouse. Et je voudrais défendre l'honneur et l'amour du métier de ces populations. J'ai été souvent le seul à dire ça. Voilà. Bon, alors, si je reviens sur le risque, du point de vue technologique, oui, pardon, mais alors peut-être que je vais quand même en deux mots. Du point de vue technologique, ça nous apprend les angles morts. C'est-à-dire qu'on se focalise sur ce qu'ils croient important. Par exemple, les hautes pressions, les hautes températures, ça fait peur, ils pouvaient faire attention. Et tout ce qui est ancillaire, les déchets, les big bags usagés qu'il faut jeter ou garder, tout ça, on n'a pas une culture suffisante là-dessus. Et donc, finalement, c'est par une pratique environnementale mal comprise, c'est-à-dire quand on ne veut plus jeter certains déchets et qu'on les recentre sur l'usine, que sans doute on crée un problème. Je ne vous livre pas la clé. Je vous dis ce qu'on peut penser quand on regarde ça. Donc, l'angle mort. Aujourd'hui, la sécurité a fait un progrès, parce qu'on regarde le procédé dans tous ses aspects. Et ça s'appelle aujourd'hui, de manière très vaste, l'analyse des cycles de vie. C'est-à-dire, quand un produit rentre, quel est son passif, quelle est son histoire? Quand il est transformé, qu'est-ce qu'on accroît comme risque ou qu'est-ce qu'on diminue? Quand il sort de l'usine, quelle est sa vie longue? C'est-à-dire, jusqu'où on va, jusqu'au démantèlement ou jusqu'au déchet. Et deuxième chose, importante, vous m'avez suggéré, c'est un boulevard, les facteurs humains. Tout de suite, quand je vois ça, je me dis non, le problème n'est pas essentiellement technologique, c'est un problème à la fois sociologique, ergonomique, psychologique, de conditions de travail. Je vais chercher quelqu'un de compétent et je me revois partant au Mirail, aussi abîmé que notre école, Gilbert de Tersac, directeur du CERTOP, le Centre d'études, recherche, travail, organisation, pouvoir, parce que je pense que la clé est là. Ensemble, nous poussons Total à mettre un peu d'argent intelligent pour créer l'Institut d'une culture sécurité industrielle. Rapidement, l'objectif, mettre toutes les parties prenantes, assez du discours vertical, c'est-à-dire des sachants qui écrivent des procédures et qui espèrent qu'en bas de chaîne, ça va être appliqué. Non, ça ne sera pas appliqué. Et il y a des raisons objectives pour lesquelles ça ne sera pas appliqué. Tant qu'on ne vient pas à une vision plus horizontale en mettant tous les ayants droit du risque autour d'une table, on n'y arrivera pas. C'est le deuxième progrès essentiel.
Merci Gilbert. Alors, je crois qu'on a vraiment explosé le ton. Donc, je vais faire une double proposition. C'est que nous arrêtions là, et comme on est en petit comité, ce qu'on peut vous proposer, c'est de s'attarder à la sortie de la salle si vous avez des questions pour l'un ou pour l'autre de ces intervenants, si jamais ça convient à tout le monde. J'en profite pour signaler à Serge que des photos ont été faites aussi de la soirée, donc on pourra t'en donner. Donc, si ça vous va, je ne fais pas circuler de micro. Je vois mon collègue Mourad Mangoun, j'en profite pour vous présenter, des Chemins de la République, prêt, mais bon, finalement, on a pas mal dépassé le temps. Donc, il me reste à m'excuser d'avoir dû couper. Voilà, on avait préparé ça. On avait de quoi tenir très, très longtemps. Il y avait beaucoup de choses à discuter. Vous remercier très chaleureusement d'être parmi nous. Je vais prendre le temps de le faire individuellement. Je reviens sur. Je rappelle que nouveau que cette soirée est podcastée, donc dans quelques temps, dans quelques semaines, ça va dépendre du temps que va mettre Luis Mendez pour mettre ça en ligne sur le site de Memodio. Voilà, et puis j'en profite pour le remercier à nouveau d'avoir mis quelques enregistrements à mes dispositions pour m'aider aussi à appréhender cette histoire d'AZF. Donc merci à toi, Luis. Voilà, Armand Cassé, merci doublement. l'aide, la préparation, et puis d'avoir tenu à être parmi nous. Et la soirée sans Armand n'aurait pas été la même. Voilà, donc il a surmonté sa douleur et sa blessure pour être parmi nous. Donc voilà, c'est aussi une histoire d'engagement, la prière ZF. Merci Mickaël pour tous les échanges qu'on a pu avoir préalablement, et puis pour avoir été parmi nous. Merci à Bertrand de nous avoir rejoints, et également pour les quelques échanges qui étaient plus par mail que par téléphone, mais qui ont été également utiles. Gilbert Casamata, ben, je regrette qu'on n'ait pas eu plus de temps pour développer toutes les choses. Gilbert avait le rôle un peu particulier du scientifique de la bande, si je peux le dire comme ça, et du technique. Et donc, ça, c'était pas mal aussi d'avoir cette perception et ce regard. Et Serge Bagui, merci d'avoir pris le temps de venir avec nous dans un quotidien très, très occupé. Quand j'ai fait les présentations, je vous ai donné à peine 20% de la bio de Serge, je crois. Il court beaucoup de lièvres, comme Armand. Donc voilà. Donc merci à tous. Merci à Damien, à Jérémy également, à la technique, qui ont géré le son et la lumière, comme à chaque fois. Voilà. Et puis merci à vous d'être venus malgré le mauvais temps. Et on peut tout à fait prendre un petit moment pour échanger dans la salle, parce que je crois que dehors le temps n'est pas terrible. Donc voilà. Bon, merci à vous et bon retour. Bonne soirée.
Même audio, une mémoire sonore.